RMC, face aux grandes gueules.
C'est le député de Haute-Garonne, Adrien Clouet, qui est avec nous. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour, merci.
Vous partez pour la Drôme, ensuite ?
Exactement, je pars tout à l'heure, parce que nous avons notre université d'été, les Amphis, qui sont déjà un énorme succès, puisqu'on a plus de 7000 inscrits. On est à deux fois plus que les années d'avant.
Et pendant, ça va durer 5 jours, c'est ça ? 6 jours ?
Un petit peu moins, on finit dimanche.
D'accord.
Donc c'est de jeudi à dimanche, mais avant il y a eu les Amphis jeunes, pour voilà. Les moins de 25 ans.
Au total, ça a été une semaine quoi, en fait, de discussion et de débat. Mais il y a eu une polémique, vous avez vu, sur les droits d'entrée, soi-disant vous faisiez des packages VIP aux Amphis, pour ceux qui ont les moyens, ils payent plus cher s'ils restent plusieurs jours. C'est vrai ou pas ça alors ?
Ah bah forcément, plus vous restez longtemps, plus votre frais d'entrée pour participer à la logistique, il est important, c'est normal. Et puis par ailleurs, c'est évidemment lié aux revenus individuels, c'est-à-dire ça va de pour les 3 jours, ça va de 35 euros à 400 minimum pour les très hauts revenus. Ça me semble normal et c'est d'ailleurs ce qu'on fera comme réforme fiscale en France l'année prochaine.
Je trouve ça génial, c'est qu'en fait vous vous êtes enfin rendu compte chez LFI qu'on avait besoin des gens riches en France pour justement subventionner ceux qu'on avait moins. Mais c'est félicitations. Moi, je suis très ému que vous soyez rendu compte de ça.
Dans ce cas-là, vous pouvez voter Jean-Luc Mélenchon parce qu'on aidera les gens riches à contribuer au collectif l'année prochaine en payant un peu plus d'impôts.
Vous avez bien raison. Ce
sera le discours de coup d'envoi de l'élection présidentielle dimanche de Jean-Luc Mélenchon.
Alors, on a déjà évidemment envoyé l'élection présidentielle. Disons que l'objectif de se réunir là, comme tous les ans, d'ailleurs, c'est bien sûr d'avoir un moment de réflexion, de travail collectif. C'est 7000 personnes qui viennent. Elles vont pouvoir assister à un peu plus d'une centaine de conférences et d'ateliers. On a 200 intervenantes et intervenants extérieurs dans le monde de la culture, dans le monde universitaire.
Il y aura du pluralisme, ou il y aura que vos idées ?
Il y a toujours du pluralisme. Déjà, les invités extérieurs, on ne sait pas forcément ce qu'ils votent, on ne demande pas une carte de formation politique. Débats sur différents sujets. Par exemple, il y aura un débat sur la sécurité civile avec des syndicalistes du monde des pompiers. Et il y aura des gens, je disais, du milieu de la culture. Vous aurez des écrivains, Éric Vuillard, Pierre Lemaître. Vous avez Mami Wata qui a gagné Drag Race France. Bon, donc il y a un pluralisme intéressant de toutes les forces de la culture, du syndicat.
Le pluralisme de toute l'extrême gauche.
Non, écoutez, déjà parce qu'il y a des députés écologistes qui viennent, donc des députés
pas de la droite,
de formation politique qui viennent. Non, effectivement, c'est pas de la droite, mais on aura des débats qui sont organisés. Maintenant, c'est avant une élection présidentielle, donc il y a Mathieu Pigasse, par exemple, qui vient aussi, qui est pas spécialement
la France. Oui, mais un débat entre personnes qui sont d'accord, c'est pas franchement un débat, c'est une conférence avec un soupçon de lobotage, de vous allez faire. Enfin, pour moi, c'est de l'endoctrinement, parce que des conférences.
Ceux qui viennent sont ceux qui sont d'accord ou qui viennent.
Mais oui, mais donc du coup, on fait un bourrage de crâne parce que j'aurais aimé, ce que j'aurais trouvé excellent de votre part, c'est de justement de manière très républicaine et respectueuse, pas pour avoir un spectacle, c'est d'inviter des gens qui vous contredisent et qu'on puisse travailler ensemble. Or, débattre avec des gens qui sont d'accord avec vous.
C'est ce que je fais ce matin, je débat avec vous alors qu'on ne vote pas pareil.
Oui, vous ne faites pas ça pour les jeunes. Pour les jeunes, vous leur montrez un débat sans être d'accord.
Et on a par exemple, on a invité des ministres du gouvernement, on a invité encore Madame Barbu hier.
Elle ne viendra pas finalement.
Elle ne viendra pas, mais vous voyez, en tout cas, on l'a invitée, elle est la bienvenue évidemment.
C'est une perche tendue quoi.
Évidemment, on nous tend une perche, on la prend.
Parce que Madame Barbu a dit que celui qui parlait le mieux de l'écologie, qui avait les meilleures propositions, c'était Jean-Luc Mélenchon.
Et oui, et pourtant, les ministres macronistes, vous voyez à quel point on arrive à faire.
Vous êtes sympathique. J'avais pas le plaisir de vous connaître, monsieur le député. C'est vrai, vous êtes moderne, vous êtes attractif, mais vous avez pas trouvé de meilleures idées que d'être socialo-communiste.
Non, effectivement, que d'être républicain-socialiste. Effectivement, j'ai pas trouvé de meilleures idées, mais je vous invite évidemment à venir aux Amphis pour pouvoir discuter et puis depuis le public animer le débat.
Alors bien sûr, justement, Jean-Luc Mélenchon va.
Ça dépend vos revenus, mais je vous enverrai la grille de tarifs pour venir. Il y a pas de problème. Vous pouvez venir comme tout le monde.
Moi, j'ai une question.
Attends, je voudrais finir. Jean-Luc Mélenchon prenant son discours dimanche, et dimanche normalement c'est l'annonce de candidature de Raphaël Glucksmann aussi.
Alors c'est ce qu'on a vu passer dans la presse. Je sais pas à quel point c'est confirmé ou pas. Bon, écoutez, je suis désolé pour M. Glucksmann si on lui chope la vedette avec le discours de Jean-Luc Mélenchon.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette candidature ? Il est de gauche, Raphaël Glucksmann, ou pas ?
Mais je sais pas quel est son programme électoral, donc je vous avoue que c'est dur de le classer pour l'instant. Le jour où il y aura un programme électoral, on pourra comparer, regarder un peu qu'est-ce qu'il pense de tel ou tel sujet, qu'est-ce qu'il pense du régime actuel, est-ce qu'il pense que la 5ème République qui concentre tous les pouvoirs c'est une bonne chose, ou est-ce qu'il faut aller vers une 6ème plus démocratique, et est-ce qu'il pense que le budget des pompiers il est adapté, ou est-ce qu'il faut du matériel, de l'équipement, du personnel qui est supérieur, est-ce qu'il pense qu'il faut organiser le territoire pour gérer la ressource en eau, interdire les pesticides qui sont cancérogènes, etc., etc. Ça c'est des sujets très concrets, je ne sais pas.
Et est-ce que vous pensez que Monsieur Mélenchon peut faire un discours encore plus long que ceux de Fidel Castro?
Alors, je sais pas, parce que Fidel Castro, il a fait 4h39 à l'ONU à son premier, de mémoire. Donc,
c'est pas l'objectif
qu'on se donne, mais effectivement, c'est sûr que si jamais on se contentait juste de lire notre programme électoral, il y en a pour 10, 15 heures à voix haute. Rassurez-vous, on fait toujours des synthèses, parce que c'est le plus dense.
Mais, attends, j'ai encore une question sur l'actualité, après je donne la parole à Zora. Sur le piratage, est-ce que les ministres auraient dû démissionner sur l'affaire du piratage ou pas?
Ils auraient dû agir, en fait. La démission, c'est toujours ce qui arrive lorsqu'on a échoué. En l'occurrence, ce piratage, il pose deux questions. D'abord, le sens que ça a. Donc, pour que tout le monde, je pense, a suivi, parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a eu une vague de piratage. Service des impôts, il y avait eu Éducation nationale avant, il y avait eu France Travail auparavant, etc., etc. Ces vagues de piratage, elles posent deux difficultés. Une qui est individuelle, c'est-à-dire que les données des personnes, vous, moi, peuvent être sur le web et donc faire l'objet de lucrativité ou de mise en marché qui peuvent être dangereuses avec des usurpations d'identité y compris, et une difficulté collective qui est la sécurité de nos institutions de souveraineté. On l'a vu par exemple, les ingérences étrangères au moment des élections municipales. Nous à Toulouse, avec François Picpal, on a fait les frais d'ingérences étrangères. Donc la fragilité des systèmes d'information de ce pays est un double problème, national et individuel. Est-ce que le gouvernement a fait ce qu'il fallait? Je ne pense pas. Notamment au budget dernier, la CNIL avait émis un avis disant qu'il aurait fallu qu'on ait à peu près au moins 40 équivalents temps plein dans l'agence de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Or, le gouvernement en a fait 5 fois moins comme ajout. C'est typiquement des petites choses qui font que économie budgétaire par économie budgétaire en réalité, coupe budgétaire par coupe budgétaire, on a retiré à tous les niveaux de services publics les défenses numériques dont nous disposions. Et la France n'a jamais été aussi exposée à des menaces soit étrangères, soit de grande criminalité par rapport à ces données. Il faut donc remettre les effectifs qui étaient nécessaires, qui sont consensuels parmi tous les experts. On dit qu'il faut au moins 40 personnes pour surveiller l'ensemble de ces données et de leur protection, et se demander pourquoi, lorsqu'une fuite de données, un vol en l'occurrence, a lieu début juin, on est au courant mi-août. C'est que visiblement, y compris dans la détection des failles, il y a un problème. Peut-être que lorsque le gouvernement a mis 40 milliards d'euros dans la loi de programmation militaire, il aurait dû mettre au moins quelques centimes dans la cybersécurité civile, comme nous le demandions.
Zora Bitton.
Alors, compte tenu de la situation aujourd'hui économique des Français, pouvoir d'achat, sécurité, éducation, culture, etc., on aurait pu imaginer que le programme de la France insoumise pouvait être, pour une grande majorité des Français, une réponse de justice sociale. Éventuellement, ça se débat. Ça, c'est projet contre projet, pourquoi pas. Ça, c'est un projet de société comme un autre. Du point de vue social et économique, il est entendable. Là où vous avez complètement, j'allais dire, si je puis me permettre le terme, bousillé votre programme et en tout cas la crédibilité d'une France insoumise qui parlera à tous les Français, c'est quand vous avez trempé dans le palestinisme à outrance. Je m'explique. Le palestinisme, c'est quoi? C'est le 7 octobre, 4 jours après, génocide. 4 jours après, Reuters, AFP, tout est sourçable. Et depuis le 7 octobre, la France insoumise a décidé de faire du palestinisme son projet politique le plus obsessionnel, le plus en avant. Et c'est vrai, c'est vérifiable. Tout le monde a noté, calculé, vérifié combien la France a insoumise. Et du coup, vous avez complètement perdu. En plus, c'était à dessein. Et d'ailleurs, c'est dit par plusieurs intervenants de la France insoumise, draguer un électorat, etc. Donc, les Français ont un sentiment de se dire que finalement, le projet économique et social de la France insoumise de 2012-2017, qui aurait pu être attractif, intéressant, parce qu'il peut être que sur le point de vue de notre pouvoir d'achat, etc., on aurait pu être entendu. Mais en fait, le palestinisme permanent, 20 millions de femmes afghanes invisibilisées. Hier, un discours de Jean-Luc Mélenchon surréaliste qui dit « il faut parler avec la Chine » et d'ailleurs « il ne faut pas se préoccuper de ceux qui gouvernent, mais parler avec tout le monde » et d'ailleurs regarder du point de vue économique et diplomatique ce que nous aurions comme intérêt à discuter avec la Chine. Ok, d'accord, moi je suis complètement d'accord. Ok, donc on s'en fout de Netanyahou. Alors, Israël, qui est un des pays les plus avancés en technologie, qui vient de sortir une révolution absolument incroyable dans l'histoire de la médecine, c'est-à-dire arriver à éradiquer le cancer du pancréas le plus mortel et qui me concerne.
Donc ils sont aveuglés par leur Palestine, c'est ce que tu dis.
Et moi je dis pourquoi?
Alors Adrien Cloué répond.
C'est quoi le projet quoi?
Le projet, il est simple, c'est la défense du droit international. Je pense que les rapports entre les peuples sont une chose, il y a aussi des rapports entre des nations qui prennent la forme de rapports entre des gouvernements. Ce sont trois choses qui sont distinctes et qui sont organisées au niveau international, notamment depuis 1945, pour pouvoir organiser l'activité collective. Alors évidemment le quotidien, le droit international, ça permet à des avions de décoller, d'atterrir, hein, oui, pour d'accord. prendre des choses de base. Okay. Et c'est aussi ce qui permet d'avoir une cour pénale internationale qui acte qu'il y a des actions, qu'il y a des pratiques qui sont mises au ban de l'humanité. En l'occurrence, ce qu'a fait le gouvernement, ce que continue à faire le gouvernement israélien, à savoir un acte de génocide.
Non, il n'est pas encore laissez-moi qualifié finir. Juridiquement.
Mais laissez-moi finir.
Quatre jours après,
la Cour internationale de justice, la Cour internationale, vous pouvez être en désaccord.
Non, vous ne pouvez pas mentir. Ça, je ne supporte pas. C'est-à-dire que
la Cour internationale de justice, dans ses réquisitions,
aucun jugement n'est rendu.
C'est une réquisition. Aujourd'hui, c'est une réquisition.
Voilà, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Donc n'hésitez pas, mais laissez-moi finir une phrase. Moi, je vous ai écouté jusqu'au bout, alors que je trouvais insupportable votre explication de palestinisme quand on parle de 20 000 gamins sous des débris, d'accord ? Donc moi aussi, je peux lever la voix et commencer à m'insurger. Bon, parlons concrètement. Pense-t-on aujourd'hui que M. Netanyahou, c'est-à-dire le gouvernement d'extrême droite à la tête de l'État d'Israël, pratique un génocide ? Je pense que oui. Deux, un nettoyage ethnique, notamment côté Cisjordanie ? Je pense que oui. Trois, des crimes de guerre et contre l'humanité, par exemple au sud Liban ? Je pense que oui également. Dès lors, si jamais il est concerné par ces trois violations du droit international, eh bien il faut des actions internationales qui sont entreprises contre lui. Et je pense que la France devrait, mériterait d'être à la pointe avancée du monde pour le respect,
ses droits fondamentaux. J'ai pas dit que j'étais pro Netanyahou. Je vous demande pourquoi vous êtes dans le palestinisme en obsession.
Mais je n'ai pas dit que vous étiez pro quoi que ce soit. Je vous connais pas. Je sais pas quelles sont vos opinions dessus. Donc et puis par ailleurs, je m'en fiche un petit peu. Moi, je vous dis ce que j'en pense moi. Vous en pensez ce que vous voulez. Bon, donc. Je pense que M. Netanyahou est un criminel de guerre. Est-ce que la France a été à la hauteur? Non, clairement pas. On a laissé M. Netanyahou survoler notre territoire alors qu'il fallait le remettre à la Cour pénale internationale. On continue à livrer des composantes d'armement. Dès lors, le gouvernement français a été complice dans les activités militaires de M. Netanyahou. Donc, il faut agir. Il faut avoir des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou. Et oui, c'est comme ça que marche le droit international. Et
c'est ce que vous ferez si vous arrivez au pouvoir.
Exactement.
Donc, je voudrais qu'on revienne juste sur ce qui est au cœur de l'été, là. Et notamment, la préparation du budget. Parce que ça va être chaud à l'Assemblée nationale. Oui. Dès que la rentrée parlementaire va arriver.
Enfin, ça va être chaud s'ils font n'importe quoi en face.
Alors justement, parce que vous avez vu, au cœur de l'été, on a eu des petites pistes comme ça, et notamment de désindexer les retraités les plus aisés. Alors c'est une piste de travail à partir de 3000 euros. C'est acceptable pour vous ou pas ?
Non.
C'est votable pour vous ou pas ?
Non, ce n'est pas acceptable, parce qu'il s'agit d'abord d'une manière
3000 euros brut, hein.
Oui. Très étonnante de couper la population sur leur statut d'activité. Pourquoi est-ce que des retraités devraient particulièrement contribuer ? Faire contribuer des gens, on pourrait estimer dans ce pays que les gens qui ont un très gros patrimoine pourraient contribuer un peu plus. C'est pas ce qui est fait. C'est les retraités uniquement, c'est-à-dire que quelqu'un de très riche qui aurait 40 ans contribuerait pas. Et puis, deuxièmement, à partir de 3000 euros bruts, moi je ne suis pas convaincu que 3000 euros bruts, on appartienne à la grande aristocratie financière dans ce pays et qu'on ait été les grands bénéficiaires depuis 2017 des politiques de Monsieur Macron. Car, depuis 2017, Monsieur Macron a redistribué chaque année à peu près 50 milliards de cadeaux fiscaux aux quelques ménages les plus aisés du pays. Ce ne sont pas celles et ceux qui seraient amenés à payer là. C'est beaucoup plus qui sont concernés. Et puis, on connaît bien l'objectif derrière. Si ils nous disent, il faut équilibrer la caisse d'assurance vieillesse, parce que c'est un des arguments, ils disent, on veut équilibrer. Dans ce cas-là, posons le débat politique. Où peut-on trouver 6 milliards d'euros pour équilibrer la caisse? Moi, je pense qu'il y a d'autres propositions qui peuvent être mises sur la table, qu'il faut les discuter. J'en fais une ici. Si jamais on faisait contribuer les revenus de levée-vente d'actions, les revenus d'intéressement et de participation au même titre que les salaires ordinaires aux caisses d'assurance vieillesse, c'est-à-dire en fait on fait cotiser tous les revenus du travail à égalité, on lève 10 milliards d'euros. Donc le sujet, il est mis de côté immédiatement. On peut avoir d'autres options. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais discutons des options financières réelles plutôt que de vouloir absolument taper sur la tête des retraités. Oui. Car l'objectif derrière, en réalité, c'est de désindexer les retraités soi-disant aisés, qui prennent des assurances privées. En réalité, on voit très bien l'objectif derrière, c'est d'ouvrir un marché de l'assurance privée en poussant des gens qui auraient les moyens un tout petit peu de cotiser de leur côté et de se détourner des caisses d'assurance vieillesse.
Est-ce que le gouvernement Le Cornu va tenir cette législature ou pas?
J'espère que non. Je trouve que chaque jour qui passe, un jour de trop. Mais ça, c'est le cas depuis leur nomination.
Moi, j'ai une question
Emmanuel, vas-y.
Oui, non, l'escroquerie de votre parti. Très brièvement, c'est de faire croire aux Français.
C'est dit amicalement. Hein.
Non, mais, oui, ben je vois bien.
Non, mais vous êtes un type sympa. Et
qu'est-ce que ce serait si c'était pas amical?
Vous êtes de commerce agréable. Tout à l'heure, je vous demanderai quand même de nous préciser ce que c'est que votre pins, la révolutionnaire. Oui. Parce que vous avez tous ça.
Le 1er mai en France, depuis 1889, le mouvement ouvrier arbore un triangle rouge. À l'époque, c'était du cuir qui était cousu sur les
c'est
vêtements.
C'est vraiment nécessaire.
C'est un symbole
2026. Bon.
Non, ouais, le 1er mai, c'est nécessaire.
L'escroquerie de votre parti, qui est un parti escroc, c'est de faire croire aux Français crédules qu'en prenant plus aux riches, on va pouvoir non seulement redistribuer, mais faire vivre l'État normalement, alors qu'il y a une impasse financière. Vous êtes un type instruit, diplômé, vous le savez parfaitement. Il y a une impasse financière qui fait que votre programme n'est pas viable et que c'est du saupoudrage de prendre encore plus aux riches qui de toute façon partiront à l'étranger parce qu'ils sont pas plus cons que la moyenne, voire moins cons. Et
vous trompez
les gens. Vous trompez les gens parce que en fait l'échelle elle est de 1 à 50. Vous pouvez prendre un plus aux riches, mais votre trou il est de 50. Donc c'est la faillite. Avec... Moi, je veux pas d'une république sud-américaine communiste en faillite. Même avec des types sympathiques comme vous, Monsieur Cloué.
Mais promis, vous n'êtes pas obligé de parler espagnol. Bon, maintenant, parlons.
C'est la faillite assurée de la France avec vous.
Au-delà des grandes expressions. Non, mais je prends un cas parce que vous avez fait un ensemble de cas. Mais vous dites, les riches partiront à l'étranger. Bon, d'abord, je pense que c'est pas leur faire.
Et les fonds riches, les petits riches, tous.
Quand vous dites les riches partent à l'étranger, je pense que c'est pas très respectueux d'imaginer que ces gens ne vivent que par leur portefeuille. Beaucoup ont attachement à la France parce que les gamins sont à l'école, parce qu'ils vivent ici, etc. Mais même s'il y en avait qui partent à l'étranger, vous savez qu'il y a des pays
avec vos impôts confiscatoires.
Je finis. Vous savez qu'il y a des pays comme les USA où je rappelle que les USA on était monté à 91% de tranche d'imposition sur les plus riches, hein, 91% maximum aux USA. Comment ils faisaient ça? Eh bien, tout simplement, ils avaient créé le système de l'impôt universel, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un de très aisé partait à l'étranger, eh bien, s'il payait moins d'impôts dans le pays où il était que son pays d'origine, il versait la différence. Ah, mais c'est pas applicable, mais pourtant ils le font encore. C'est marrant, ça.
C'est pas applicable, pourtant, à la fin de ce mois, la France n'est pas l'Amérique.
Les contribuables nord-américains vont encore le faire et vont verser ce différentiel. Donc, bien sûr qu'on peut le faire et bien sûr que c'est la base avec laquelle il faut créer des coopérations. Il y a, dans le cadre de l'OCDE,
les gens prendront les nationalités étrangères, c'est pas applicable.
Alors vous savez que ça dure un peu de temps la nationalité pour la prendre, donc ça nous laisse déjà 5-6 ans pour faire le différentiel. Rassurez-vous, la caisse sera bien remplie.
20 000 foyers fiscaux sont partis depuis 1980 avec vos ancêtres socialo-communistes. Tous ces gens-là, ils sont déjà dans des pays depuis longtemps, ils ont déjà plus ou moins la double nationalité ou l'accès à une autre nationalité.
Combien de gens sont revenus?
Les vraies fortunes, grandes fortunes.
Je vous retourne une question. Combien de gens sont revenus, combien de ménages fortunés sont revenus quand vous avez supprimé l'ISF?
Ils reviennent pas parce que vous leur faites peur.
Alors, donc ça veut dire que vous faites des cadeaux aux riches, ils reviennent pas, et vous dites, mais ils reviennent pas parce que vous pourriez pas leur
faire. Toutes les personnes de la France insoumise sont pas aussi sympathiques que vous, monsieur Cloué.
Mais personne n'y croit à vos histoires. À chaque fois que vous faites un cadeau aux riches, il n'y en a pas un seul qui revient, et dès qu'on leur fait payer des impôts, vous dites, attention, ils vont partir.
Mais il n'y a pas eu de cadeau aux riches, vous racontez n'importe quoi.
La fin de l'ISF,
c'est des allègements d'impôts. Vous pouvez pas parler de cadeau.
Un impôt sur la fortune supprimée, c'est pas un cadeau.
Mais l'IFI a été maintenu, vous savez très bien que le rendement est très proche.
Alors, combien rapporterait
l'impôt sur la fortune aujourd'hui?
Vous seriez riche, monsieur Cloué, vous seriez le premier à partir, ne dites pas n'importe quoi.
Non.
Vous mentez.
Non, parce que moi, j'aime mon pays et j'aime financer des écoles, des hôpitaux.
Avec des impôts confiscatoires, vous resteriez.
Oui, bah, vous savez qu'on a la chance d'être millionnaire, on dit merci à son pays au lieu de se barrer. Mais vous savez combien rapporterait l'ISF aujourd'hui s'il existait encore à la place de l'IFI?
Mais très peu.
5 milliards d'euros.
Mais très peu. C'est rien.
C'est rien, 5 milliards d'euros.
Pour foutre en l'air toute l'économie française. 5 milliards d'euros. Les gens qui n'investissent plus. Attendez. Ce sont les gens qui tirent la France. 20 000 foyers fiscaux sont partis.
5 milliards d'euros, vous dites que c'est rien. Pourtant, c'est ce que vous voulez récupérer en désindexant les retraités. Donc là, il y a un choix qui est très clair. Est-ce que vous voulez faire payer des gens qui ont un très gros patrimoine ou pour la même somme désindexer la moitié des retraités de ce pays?
Moi, j'ai fait mon choix. Je me tais après, mais ce qui est terrible, monsieur Cloué, au-delà de votre sympathie, encore une fois, en tant qu'homme, vous êtes un de commerce agréable, mais c'est que vous n'accéderez pas au pouvoir, mais rien qu'avec les idées folle que vous brandissez, les riches ils partent déjà, vous approvisionnez notre pays rien que par votre existence
rendez-vous au mois d'avril déjà, puisque enfin au mois de mai, puisque ce sera le premier tour de l'élection présidentielle, puis rendez-vous dimanche pour le discours de Jean-Luc Mélenchon que l'on écoutera bien sûr. Merci Adrien Cloué d'être venu vous confronter au GG, merci beaucoup, et bon séjour là dans la Drôme pour ces amphis.